Chaque jour dans La France bouge, on se pose et on découvre l'histoire d'une marque, d'un endroit français qui a traversé des générations, des histoires de famille. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une marque de famille qui a su se réinventer au fil des générations. Bonjour Stéphanie Perel.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la marque et la petite fille de Simone Perel. Vous avez rejoint l'entreprise familiale en 2009. Simone Perel, c'est plus de 70 ans d'histoire, un savoir-faire, mais aussi une affaire de famille. C'est surtout un engagement envers toutes les femmes, hein, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, leur poids. Vous êtes dans la lingerie, mais vous avez créé une collection de maillots de bain. Vous dites qu'elle est bienveillante et élégante.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la marque existe depuis plus de 70 ans. Hein. Elle est fondée principalement sur la corseterie qui nous a porté depuis tout ce temps. Et depuis plusieurs années, on essaye vraiment d'étendre notre territoire, d'étendre notre gamme de produits. Ça a commencé par le maillot de bain, ce qui nous semblait pour une fois la possibilité de montrer un produit, parce qu'on n'imagine pas qu'en fait, on fait des produits qui ne se voient jamais, quasiment jamais. Et du coup, c'était assez opportun, on va dire, de pouvoir aller développer cette gamme, toujours dans le respect de nos missions, de nos valeurs, qui sont évidemment d'allier à la fois le style français qui nous caractérise et aussi notre savoir-faire corsetier.
Mais c'est vrai que les deux mots qu'Elisabeth a utilisés sont importants, je trouve. Une collection de bains bienveillante et élégante. Comment ça se traduit dans les faits?
Alors, dans les faits, c'est un vrai challenge et c'est des grosses, on va dire,
des grosses réunions.
Des grosses réunions entre les équipes créatives et marketing, on est bien d'accord. Parce qu'il faut, arriver à trouver cet équilibre qui fait qu'on arrive à avoir un tout petit peu d'audace dans nos produits. Mais on n'est pas non plus une marque de mode, Simone Perel, on est plutôt sur de l'intemporel. Et surtout, aller trouver les matières qui vont aussi nous permettre de pouvoir monter en taille, parce qu'on habille jusqu'à des bonnets F aussi, qui sont importants et qu'on ne trouve pas toujours dans le milieu du maillot de bain. Et c'est ce qui fait notre particularité, de pouvoir à la fois proposer un produit mode qui se voit, mais dans lequel aussi la femme est confortable toute la journée.
Alors ça, c'est valable aussi pour le maillot de bain. Donc ça veut dire que vous avez créé des collections aussi un peu intemporelles?
Alors, on a eu des collections, en effet, qui ont duré plusieurs années. Sur le maillot de bain, on est vraiment plus dans un rapport de mode. Donc, on va avoir tendance à renouveler l'offre vraiment chaque année, à la différence de la corsetterie où là, on a beaucoup plus de lignes qui sont permanentes et qui peuvent exister depuis très longtemps.
C'est le début donc d'une nouvelle aventure, d'une certaine manière, qui pourrait aller plus loin. Est-ce qu'un jour, Simone Perel pourrait être une marque de mode globale?
J'aimerais.
Donc c'est dans les projets.
C'est dans les projets. Les vrais projets, c'est surtout vraiment d'étendre notre territoire de produits. Depuis quelques années, on a nos propres magasins. On est beaucoup distribué aussi dans tous les grands magasins du monde entier. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir offrir autre chose que de la corsetterie. Donc on a commencé avec le maillot de bain. On vient de lancer une nouvelle collection, toujours de corsetterie, mais avec un positionnement extrêmement différent de celui de Simone Perel, qui s'appelle la collection Simone.
Alors Stéphanie Perel, vous avancez, vous évoluez ici avec votre temps, hein, parce que avec la parole des femmes, la parole qui se libère du côté des femmes, vous avez aussi adapté vos lignes en mettant en avant la diversité, en mettant en avant les femmes dites libres, et vous donnez aussi du sens à votre entreprise, parce que on ne le sait pas forcément, mais vous soutenez des associations qui aident les femmes.
Oui, tout à fait. Notre grand-mère, il y a 70 ans, quand elle a créé sa société, a vraiment aidé les femmes à se libérer. On était juste après la guerre, donc on est dans un contexte extrêmement différent de celui d'aujourd'hui. Et elle a toujours porté une attention particulière à ce que les femmes se sentent bien dans leur corps, dans leur tête, parce qu'elle partait du principe que si on se sent bien soi-même, on est épanoui. Et c'est vraiment ce qui nous guide aussi tous les jours. Et donc toujours d'aller montrer qu'on habille toutes les morphologies, tous les différents types de femmes dans le monde, parce qu'on est présent un peu partout dans le monde aussi. Et ça nous porte.
Et c'est ça qui est important, parce que vous devez vous adapter à chacune des femmes, puisque rien qu'en Europe, je crois que la dentelle ou la lingerie française n'a rien à voir avec ce que porte par exemple une Espagnole. Et c'est encore plus radical la différence entre une Française, une Américaine et une Singapourienne. Je ne sais pas pourquoi je pense à Singapour, mais en tout cas une Asiatique.
Oui, tout à fait. Alors, d'autant plus qu'on est sur un produit qui est vraiment porté sur le corps. Ce n'est pas comme un vêtement qui va être plus ample, dans lequel on va avoir moins de distinctions. Là, la corsetterie doit prendre en compte toutes les différentes morphologies des femmes de partout dans le monde. Et en effet, l'Asiatique est différente de l'Américaine, qui est différente de l'Européenne. Et si je rentre même dans un niveau de détail encore plus loin, on a la femme de Lille qui est différente de celle de Marseille.
Ah oui,
et
donc,
du coup, c'est quoi la différence aussi,
bah, ce sont, alors, si on parle typologie de produits, déjà d'un pays à un autre, en fonction de la pudeur, du rapport au corps, etc., on va avoir des marchés plutôt américains qui vont porter des choses plus opaques, plus couvrantes.
Jolies.
Non, différentes. Différentes. Et en effet, des cultures plus françaises ou européennes qui vont aller chercher de la broderie, de la dentelle, un peu plus de raffinement. Et après, les formes aussi. On va trouver des décolletés plongeants pour, en effet, plus des femmes en France, des choses plus couvrantes aux États-Unis. Enfin voilà, il y a vraiment des particularités. Et encore aussi au niveau déjà des tailles, parce qu'évidemment, des bonnets B jusqu'au bonnet G, on n'a pas du tout la même chose. Et aussi, on n'y pense pas souvent, mais des couleurs, parce que les teintes de peau font aussi que d'un marché à un autre, on ne va pas vendre de jaune en Asie, on va vendre des coloris peau aux États-Unis, on va vendre de la couleur en France. Enfin voilà, donc toutes ces données sont à prendre en compte.
Emmanuel de Bruyère, vous êtes le PDG, le propriétaire de la marque Oxbow. Alors là, on vient de l'entendre avec Stéphanie Perel, la reprise, cette entreprise familiale qui a plus de 70 ans d'histoire. Vous, si on a aussi voulu vous inviter dans la France Bouge, c'est pour votre parcours entrepreneurial qui est absolument incroyable, parce que vous avez racheté Oxbow en juin 2020, il y a un an, on sort du premier confinement. Il fallait le faire. Comment vous avez fait ? Enfin, vous n'avez pas voulu abandonner, parce que j'imagine qu'un processus de rachat, ça a commencé bien avant l'histoire, la crise du Covid.
Exactement. En fait, je crois que quand on se prétend entrepreneur, en tout cas, il faut faire preuve de persévérance. C'est vraiment une qualité fondamentale quand on part sur ce genre de projet. Et le projet de rachat a mis quelques mois à se concrétiser. Et donc, il avait commencé avant l'arrivée du Covid. Et donc, une fois qu'on est lancé dans une aventure comme ça, en général, on fait tout pour aller au bout. Et il y a des aléas. Alors là, c'en était un majeur. Mais qui peut... C'est vraiment... je me dis qu'à chaque fois, dans une situation de crise, il y a aussi des opportunités. Donc,
est-ce que l'une des opportunités, c'était de faire baisser le prix et d'avoir Oxbow à... un meilleur marché?
Alors, c'est encore une fois, c'était pas planifié, mais le
mais
résultat,
ça s'est présenté.
C'est qu'effectivement, vous avez raison, on a réussi à dimensionner le deal en fonction de la
situation, tout simplement.
De la situation, exactement.
Tout simplement.
Donc, on aurait fait une énorme erreur de
laisser tomber.
Partir. Alors, d'une part, de laisser tomber, et d'autre part, d'accepter un deal qui était dimensionné pour une entreprise avant la crise, alors qu'on savait pertinemment que cette crise aurait un impact économique.
C'est aussi ça l'entrepreneuriat, hein. C'est savoir saisir aussi le moment et l'époque que nous sommes en train de vivre. Stéphanie Perel, cette image de la femme libre, et vous la poursuivez aussi à l'intérieur même de votre entreprise, de vos usines. Vous avez vos propres usines et vous avez même aussi vos propres salles d'allaitement. Vous n'en parlez jamais, pourtant c'est extrêmement important dans l'époque dans laquelle nous sommes.
Oui, salle d'allaitement, mais en fait c'est
naturel.
C'est naturel, c'est-à-dire qu'il y avait besoin d'un potager au début parce qu'on avait besoin d'aider nos salariés à se nourrir. Il y a eu un potager, après il y a eu besoin d'une salle d'allaitement, ben, on l'a fait. Là-bas, ce sont des choses à peu près normales en fait, qui sont, et il n'y a même pas besoin de communiquer dessus, en fait. Ça semble logique de devoir accompagner toutes ces populations.
Merci. En tout cas, merci à vous, Stéphanie Perel. Je rappelle que vous êtes la directrice de la marque, la petite fille de Simone Perel. Simone Perel, marque de lingerie, mais qui se lance aussi sur le maillot de bain. Merci d'être venue dans La France
Bouge.